La Collective, c'est une émission hebdomadaire.
C'est à plusieurs, c'est ensemble.
C'est local.
C'est un mélange, la collective.
C'est des interviews.
De l'actualité.
Des chroniques, des reportages.
De la musique.
C'est divers et c'est varié.
La Collective, c'est ta voix.
C'est ma voix.
C'est nos voix. C'est tout de suite et c'est maintenant sur Radio Sans Ferréole.
Bonjour, voici une histoire pas comme les autres, celle du garage Durand à Oust-sur-Scie, récoltée en juin 2025. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'histoire du garage de Jean-Michel et Fabienne Durand. Jean-Michel Durand, vous le connaissez peut-être sous le nom de Barberousse, ou encore de l'écureuil, de Zazetop, du Viking. Quel que soit son surnom, l'homme à la Barberousse, donc Jean-Michel, c'est un garagiste comme on n'en fait presque plus, un artisan mécanicien au sens noble du terme, qui aime fabriquer ses outils, se creuser la tête même la nuit pour trouver l'origine d'une panne, qui a entassé pendant des décennies des tonnes de pièces pour dépanner ses clients, qui sont souvent devenus des copains. C'est en 1990 que Jean-Michel et Fabienne Durand ont lancé leur activité ici, dans la Grand Rue de Oust, face à la MJC Nichaise. Et après 35 ans de bons et loyaux services, c'est l'heure de la retraite. Et c'est la fin de l'atelier de mécanique qui va devenir un bureau d'études. À l'heure où les valises de diagnostic sont omniprésentes dans les garages, M. L'Écureuil nous rappelle ce que le métier de mécanicien automobile a pu être, avec une bonne dose d'énergie, d'inventivité et de passion. Je vous invite à passer cette heure à revivre l'histoire d'un garage à l'ancienne et de son patron, Jean-Michel Durand. On est mercredi 25 juin 2025.
Voilà, donc on arrive à 3 jours de la fin du garage Durand qui avait débuté en octobre 90.
Tu te rappelles quel jour ?
Eh oui, c'était le 10 octobre, le 10-10-90. Nous avons ouvert le garage et petit à petit, ben, nous avons suivi toutes les évolutions de la mécanique. Les voitures ont bien évolué pendant ces 35 ans. Mais bon, maintenant, ça devient de plus en plus sophistiqué, donc je suis content de partir à la retraite.
Qu'est-ce que ça fait là aujourd'hui de fermer ?
On a dû enlever le matériel, mettre au recyclage donc les huiles, les batteries, les ferrailles. Après, on a vendu un petit peu du matériel. On a donné du matériel à des gens qui voulaient apprendre un petit peu la mécanique. On va donner aussi à un garage associatif nos vieilles pièces. Voilà, pour pas que ça se perde. Si ça peut servir à quelqu'un, c'est bien.
C'est quoi l'état d'esprit là en ce moment ?
Eh bien, je ne sais pas. Après 35 ans à faire de la mécanique, je ne sais pas si ça ne va pas me manquer. Parce que bon, le métier de garagiste est un métier très intéressant. On a la chance de voir beaucoup de monde, de ne faire jamais le même travail. Et on ne sait pas le matin quand on se lève, qu'est-ce qui va nous arriver dans la journée comme chantier et si ça va être facile, si ça, il va falloir se casser la tête avec les nouveaux procédés de réparation. Avec les valises, les interrogations, travailler sur l'électronique. Donc, c'est vraiment le métier très varié.
Et ça, ça te plaisait ?
Ah ben, bien sûr, c'est ce qui me plaisait. D'avoir un peu de temps en temps des challenges, c'est ce qui va le mieux. Si c'est juste pour faire mécanicien et être monteur de pneus et vidangeur, je pense que je n'aurais pas fait 35 ans dans ce métier. Ce qui plaît, c'est que la diversité et puis tous les jours, un nouveau défi. Tous les jours, une voiture qui a une panne pas comme les autres, où on doit chercher, se casser la tête.
Est-ce que tu as un exemple en tête d'un cas qui t'a vraiment donné du fil à retordre et,
Ah ben oui, en ce moment, par exemple, j'ai, pour ne pas citer, une Peugeot d'une infirmière. J'y passe bientôt une heure par jour à rechercher la panne. Donc, depuis quelque temps, on évolue. Maintenant, la voiture marche correctement, mais c'est jamais fini et c'est jamais gagné.
Parce que c'était une panne que tu n'avais jamais vue ?
Ben, c'est une panne intermittente, et les pannes intermittentes, c'est toujours ce qui est le plus dur à trouver. Parce qu'on croit avoir réparé, et finalement, 2 heures après, la panne, elle revient, comme ce n'est pas une panne permanente.
C'était quoi le rythme? Parce que nous, on ne se rend pas compte, on venait comme ça, le rythme habituel de travail.
Ben, le rythme, c'est très souvent debout 5 heures du matin, ouverture de l'atelier vers 6h, 6h30, et peu de temps pour manger à midi. Et après, le soir, eh bien, on partait un petit peu quand toutes les voitures étaient finies. Donc, ça pouvait être 17h30 comme 19h, 20h ou 21h. Voilà, donc on n'est pas dans un métier où l'emploi du temps est mathématique. Il s'agit qu'on ait 2-3 urgences dans la journée, et bien on finit avec 3 heures de retard le soir. Après, on doit porter un service aux gens. Donc il faut qu'on soit là le jour où ils ont besoin de nous. Et il ne faut pas qu'on soit là que pour leur prendre de l'argent et puis qu'ils aient rien de plus en compensation. Voilà, donc la disponibilité, c'était ce qui comptait chez nous. C'était les petites entreprises, on est là pour faire du coup par coup et s'adapter aux problèmes de nos clients.
C'est pour ça que les clients sont devenus des collègues.
Et malheureusement, voilà, je pense qu'on a trop de collègues maintenant. Avec tous les clients, bon, au fur et à mesure des années, hier encore, on a une dame d'un certain âge qui est venue nous dire au revoir. Ça a été une de nos premières clientes en 90. Et donc, je pense qu'elle n'a jamais mis sa voiture dans aucun atelier en 35 ans autre que chez nous. Voilà, donc bon, ben, ces gens-là, c'est vrai qu'on a toute une histoire. Je les ai vus avec leurs premières voitures, des vieilles voitures. Maintenant, ils arrivent avec des voitures neuves. Après, moi, j'ai des gens qui sont venus et maintenant, c'est leurs petits-enfants qui arrivent en voiture. Donc, j'ai vu passer 2 générations dans le garage. Donc, c'est papa, c'est une clientèle vraiment qui est fidèle.
Tous ensemble, on a rigolé et tous ensemble, on a chanté. Maintenant, il faut se quitter. Maintenant, il faut s'en aller. J'ai raconté toutes mes histoires. Il n'y a plus rien dans ma guitare. Maintenant, il faut se quitter. Maintenant, il faut s'en aller. Demain, je serai loin d'ici. Mais je reviendrai.
Un très bon rouleur en vélo. Mais il a tenu à venir dire au revoir au garage. Voilà, sans dire au revoir au garagiste, mais d'aller dire au revoir au garage.
Il repasse le lit.
Voilà.
Et vous avez eu beaucoup de gens comme ça ?
Oui, on a eu plein de cadeaux. On a eu, à midi, j'ai eu encore une fleur. On a eu du miel, du chocolat, plein de cadeaux.
Voilà. Et donc, les gens, ils viennent pour nous remercier de s'être occupés de leur voiture pendant X temps, c'est-à-dire au moins 20, 25, 30 ou 35 ans. C'est eux qui viennent nous remercier, alors que c'est moi qui devrais les remercier de m'avoir payé vivre financièrement pendant 35 ans. C'est avec leur argent que j'ai vécu pendant 35 ans. Mais donc, c'est l'inverse. C'est eux qui viennent me remercier, alors que je pense que c'est moi qui devrais les remercier. Bon, ben voilà. Donc, on se remercie réciproquement.
C'était plus que du travail.
Oui, voilà. Moi, bon, c'était... Évidemment, ce métier, il me plaît toujours autant. Voilà. C'est pas... J'arrête pas parce que j'en ai marre du métier. J'arrête parce que j'ai envie de voir un peu autre chose aussi. Mais sinon, c'est un métier qui est vraiment trop beau, entre le contact de la clientèle, les gens avec qui on sympathise. C'est un boulot qu'on ne fait jamais pareil. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Comme boulot, pour moi, c'était bien mon truc. En plus, bon, ça demandait de la logique, chose que je pense que j'avais un peu en moi. Et ça se passait relativement toujours bien.
Le garage Durand était situé sur la Grand Rue à Oust. Et c'est assez rare aujourd'hui d'avoir des garages en centre-ville. Quand on passe devant, on remarque des anneaux sur la façade. On va voir l'explication avec Jean-Michel Durand qui nous raconte l'histoire de ce lieu.
À l'origine, ce bâtiment était le bâtiment du maréchal Ferrand. Donc cette première partie-là, la plus petite, c'était la partie travail. Donc là, on voit encore contre le mur la cheminée de la forge. Donc, ils forgeaient les fers à chevaux ou ils forgeaient des morceaux de ferraille qu'ils devaient ressouder. La deuxième partie, là, c'était pour entreposer les chevaux ou les bœufs le temps qu'ils soient ferrés et que les paysans viennent les récupérer. Là, derrière, il y avait un tout petit jardin et derrière, c'était du terrain vague. Le maréchal Ferrand, il a dû arrêter dans les années 60 ou 65. Voilà. Et c'est pour ça que sur la passade, on a encore les anneaux pour attacher les chevaux. Voilà, chose qui n'a jamais servi en 35 ans chez moi. Mais donc, l'ancêtre de la voiture, c'était le cheval. Donc, c'est pour ça que depuis très longtemps, cet emplacement, ça a toujours servi pour que les gens puissent se déplacer. Exactement comme mon voisin, le garage Peugeot de Cré, c'était un bâtiment où il fabriquait les charrettes. Voilà, et de la charrette, ça a évolué. Après, c'est passé à la voiture. Comment a évolué le temps ? Voilà. Donc là, on est sur la partie arrière du garage. Donc, c'était l'endroit où on faisait les mécaniques qui duraient longtemps. Les embrayages, les distributions, les choses comme ça. Là, après, sur ce poste-là, c'était plutôt le réglage du train avant, le remplacement des rotules suite au contrôle technique, souvent. Donc, au premier étage, on avait la mezzaline où on mettait nos pièces détachées. Donc, ça, c'est le morceau qu'on a démonté ce week-end. Donc, voilà pour l'arrière du garage. Après, quand on arrive plus vers le centre du garage, c'était plutôt donc, les entretiens de véhicules, tout ce qui était les vidanges et choses comme ça. Et carrément à l'entrée, sur le pont numéro 1, là, on était carrément sur ce qui était intervention très rapide, la petite réparation de 10-15 minutes sans rendez-vous pour quelqu'un qui avait la petite panne de dernière minute. Voilà comment était situé le garage. Après, on avait des emplacements avec des établis pour arriver à faire, donc quand on démontait un moteur, pour réparer les moteurs, réparer les boîtes à vitesse. Là, c'était du travail à l'établi avec les étaux et tout ce qu'il fallait. Après, on avait donc tout le tour du garage, tous les outils qui étaient pendus sur des panoplies qui correspondaient bien à chaque lieu d'intervention. Donc, chaque lieu avait des outils un peu spécifiques. Au moins, on ne cherchait pas le matériel dans tous les sens, ça allait bien. Et en plus, nous, on avait la chance ici d'avoir une grande fosse, ce qui nous permettait de travailler debout dessous les voitures, tout en les levant et en pouvant travailler par-dessus. Ça a été un bon avantage.
Et tu peux donner des exemples d'outils spécifiques à l'automobile ?
Eh bien, dans tous les métiers, on a les outils spécifiques de série, mais malheureusement, des fois, on tombait sur des cas particuliers, et à ce moment-là, il fallait soit modifier les arraches, les outils spéciaux, ou voire même les fabriquer de toutes parts. Il fallait juste avoir un petit peu, des fois, d'imagination, et ça nous facilitait bien la tâche.
Ah ouais, t'as fabriqué des outils ?
Ah, mais j'en ai fabriqué plein. J'en ai une collection. En 35 ans, je ne sais pas, je dois avoir 200-300 kilos d'outils spéciaux que j'ai fabriqués moi-même et que je me sers pour certaines voitures bien particulières.
Ah oui, elles font un truc en particulier. Tu peux donner un exemple ou...
Ah, c'était tout du coup par coup. Surtout, par exemple, quand on travaillait à la presse, qu'on changeait des cils en bloc sur les berceaux moteurs ou sur les essieux. À chaque fois, il fallait des bagues bien précises pour éjecter l'ancien cylindre en bloc et reposer le nouveau sans l'endommager. Et bien donc, à chaque fois, il fallait fabriquer des entretoises pile à la dimension pour faire ces exercices-là.
Et c'est toi qui les as fabriqués ?
Oui, bien sûr. On prenait la côte du cylindre en bloc qu'on avait à enlever. On le fabriquait soit avec un petit coup de tour, soit en récupérant déjà des cylindres qui étaient pratiquement au diamètre. On rajoutait des fois des renforts, des choses comme ça. On mettait aussi des fois des tiges filetées, des filetages pour s'il y avait besoin de mettre en traction. Et comme ça, au moins, on arrivait à démonter plus rapidement plein de choses. Et souvent, ça nous évitait de tomber tout l'ensemble du berceau. Avec des outils fabriqués pour, on arrivait à faire les remplacements sans tout déposer. Donc, gain de temps et facture plus faible.
Client content.
Voilà, c'était comme ça. Donc après, comme on avait fait deux emplacements de stockage pour des pièces de seconde main, comme c'est la mode maintenant, Donc, avec ça, ça nous permettait de dépanner plein de gens à moindre coût et très rapidement, parce qu'on avait donc les pièces directement stockées, contrôlées et éventuellement rénovées. Donc, ça nous permettait d'être très rapide à des bons prix.
Tu dis c'est la mode, mais ça fait 30 ans que tu mettais des pièces de côté.
Oui, alors c'est peut-être la mode qui m'a copié, mais bon, ça, je l'ai toujours fait. Et actuellement, je me retrouve finalement que j'ai dû dispatcher environ 15 tonnes de pièces vers des collègues qui veulent faire un petit peu le même style de travail que moi.
J'aimerais bien que tu me racontes le début, comment t'es arrivé au garage, comment ça a démarré.
Oh, c'est une longue histoire. Donc, j'ai commencé en mécanique parce que bon, on faisait de la mécanique à la campagne sur les tracteurs, sur des choses comme ça. Donc, j'ai voulu apprendre le métier de mécanicien. Je suis allé en mécanique poids lourd. J'ai fait mon apprentissage. Dans le même garage, après, j'ai été ouvrier. Et après, très très vite, j'ai eu la chance de pouvoir passer responsable d'atelier. Et quand j'ai été responsable d'atelier, je voulais passer à autre chose et c'est essayer d'avoir mon propre garage. C'est ce que j'ai fait. Et c'est pour ça qu'à 24 ans, et donc, j'ai acheté le garage où je suis actuellement. J'étais un peu jeune, je manquais d'expérience. Je connaissais la mécanique, mais je ne connaissais pas la gestion. C'est le plus dur pour démarrer une entreprise, c'est arriver à tout gérer. La mécanique, la clientèle, la gestion.
Fabienne était déjà là ?
Oui, bien sûr. Donc, on a démarré à deux, sans beaucoup d'expérience pour la gestion. Et puis, on s'y est mis au fur et à mesure. Et bon, nos erreurs, c'est nous qui les payons, donc on ne les refaisait pas.
Par exemple ?
Il faut arriver à trouver le juste prix entre gagner sa vie et ne pas voler les gens. Trouver le juste prix des réparations. Et dans le doute, quand on a peu de clients, on essaye de faire des petits prix pour que les gens reviennent et soient contents donc, de la qualité à petit prix. Mais la qualité à petit prix n'est pas très rentable. Voilà. Et après, au fur et à mesure des années, avec la clientèle, la confiance s'est installée. Et bon, on a fait un petit peu comme tout le monde, on a suivi les prix de nos concurrents, de nos voisins. Et puis bon, maintenant, on est un garage comme les autres. À part qu'on n'a jamais eu de marque, donc on réparait toutes marques. C'est encore plus dur, parce qu'il faut connaître un petit peu toutes les marques courantes. Voilà.
Et c'est devenu très rare un garage comme le vôtre aujourd'hui.
C'est très rare et je pense que ça va disparaître. Parce que les voitures étant tellement sophistiquées, il faut tellement prendre des abonnements de logiciels pour pouvoir les réparer qu'on ne pourra plus rester multimarque comme j'ai fait pendant 35 ans. On sera obligé de vraiment se spécialiser en une marque et faire bien sûr d'après l'école tous les stages qui vont avec la marque.
Est-ce que ça reste le même métier d'après toi ?
Si ça reste le même métier ? Non. Maintenant, on va plus se diriger vers de la recherche de panne avec les balises, du remplacement de pièces, mais de la réparation de pièces pour remettre sur la voiture, style changer les balais, les charbons d'un démarreur ou d'un alternateur, ou changer les roulements de boîte, c'est quelque chose qui ne se fera plus jamais dans les ateliers.
Donc c'est le bon moment pour fermer.
Oui, voilà, je me suis bien fait plaisir avec la mécanique. Et la mécanique du futur, je pense que ce n'est pas celle qui m'aurait bien plu. Parce que ouvrir une boîte, poser une pièce, mettre un coup de valise et rendre la voiture, pour moi, c'est plus trop de la mécanique. Ce n'est pas de la réparation, ce n'est pas de l'artisanat. C'est les vendeurs de pièces.
Je veux bien qu'on rembobine à où tu es né, comment tu as grandi. Ce que tu disais, j'ai appris la mécanique à la campagne, mais moi, je ne connais pas toute cette période.
Eh bien, donc, je suis né en 64, donc d'où mes 60 ans cette année, donc qui me donne le droit de prendre ma retraite. Donc j'ai passé les 15. Je suis né près de Valence. J'ai passé donc 15 ans, jusqu'à mes 15 ans dans une ferme avec mon père, mon frère, mes sœurs, ma mère. Donc tout le monde à la ferme à cette époque-là aidait à faire toutes les tâches qu'il y avait. Et quand quelque chose ne marchait pas normalement, eh bien, j'essayais de comprendre pourquoi ça ne marchait pas et j'essayais de réparer dans le mieux possible avec les conseils d'amis ou de voisins. Et c'est comme ça que j'ai commencé les premières mécaniques. Et puis ça me plaisait parce que je me suis aperçu que quand je cherchais les pannes, eh bien, j'arrivais à les trouver. Donc quand on commence à réussir dans un métier, ça donne envie de continuer. Voilà, et c'est comme ça qu'après, donc à 16 ans, quand j'ai dû partir de mes propres ailes, eh bien, je...
Il n'était pas question de continuer la ferme.
Eh bien non, nous étions 4 enfants, donc on ne peut pas être 4 sur la même ferme. Donc moi, étant le deuxième des enfants, je suis parti travailler donc à l'extérieur, et c'est pour ça que j'ai appris la mécanique. Bien, comme tous les enfants qui sont nés dans les fermes, très tôt on a commencé à travailler chez nos parents et chez nos voisins pour gagner 4 petits sous. À l'époque, c'était faisable facilement. Et donc, très vite, je me suis aperçu qu'il y avait des travaux qui étaient vraiment répétitifs. C'était pratiquement du travail à la chaîne.
Faut que tu me racontes les travaux que c'était.
Bien, c'était par exemple... la moitié d'une nuit, attraper des poulets pendant 5-6 heures, accroupis sur le fumier, et ça pendant 3-4 soirs de la semaine. Ben, c'est un boulot qui n'est pas très gratifiant et dont on se lasse très très vite.
Ça représente donc, combien de poulets?
Oh, c'était 2, 3, 5, 8 000 poulets par nuit. Voilà, c'était déjà pas mal. Après, quand on faisait les foins, pendant 3 semaines, on rentrait que des ballots de fourrage. On faisait les pailles, ça durait un mois, mais c'était que des boulots. À chaque fois, le matin, on se levait, on faisait rien de nouveau. C'était que du travail de force et du travail répétitif. Donc, quand j'ai commencé à connaître la mécanique et que j'ai vu comme c'était varié, comme c'était intéressant et que les journées, on ne regardait jamais la montre, c'était déjà midi, c'était déjà 6 heures, là, très vite, je me suis dit, c'est un métier comme ça que je veux faire, un métier qui soit varié, bien diversifié, et où on a besoin de réfléchir pendant qu'on travaille. Parce que bon, quand on attrape des poulets, par exemple, du moment qu'on sait qu'on va les attraper par les pattes, ça y est, on sait faire, c'est terminé, on n'apprendra plus jamais rien. Tandis que quand je suis rentré en mécanique, je me suis rendu compte de tout ce que j'allais pouvoir découvrir.
Et tu disais, tu as commencé côté poids lourd.
Oui, donc n'ayant pas trouvé de suite un emploi de mécanicien auto et ne sachant pas trop à l'époque quel style de mécanique allait me plaire, parce que j'avais surtout fait de la mécanique agricole, j'ai trouvé une place en mécanique poids lourd. Donc j'ai attaqué pour voir ce que ça allait donner. Je suis tombé sur un patron qui était extraordinaire et qui connaissait vraiment bien son travail et qui travaillait avec nous dans l'atelier. Donc j'étais de suite un peu sous son aile et c'est pour ça que j'ai eu la chance de pouvoir progresser si vite dans le métier.
C'était où et il s'appelait comment?
C'était le garage Gilly qui était à l'époque 7e RVI à Romain. Voilà, c'était un garage où on était 5-6 ouvriers. Et c'est un garage qui à l'heure actuelle n'existe plus non plus. Dommage.
Et alors raconte un peu, parce que je te demande ça parce que tu me l'as déjà raconté une fois, ce que ça représente de travailler dans l'univers poids lourd.
Donc l'univers poids lourd, c'était un univers qui est bien particulier. Alors on n'a pas la chance que ce soit un métier tout repos, c'est pénible, c'est dur, c'est de la grosse mécanique. Par contre, on a la chance, surtout quand on a 16 ans, de pouvoir manœuvrer des camions qui, à l'époque, avaient 350 chevaux. Pour un gamin de 16 ans, c'était un petit peu le rêve de conduire des gros camions et puis les réparer aussi. Voilà ce qui m'a donné la passion de la mécanique. Et j'ai eu la chance de pouvoir passer tous les échelons. J'ai commencé apprenti, après je suis passé ouvrier, après j'ai commencé à travailler de plus en plus sur des gros chantiers tout seul. Et quand le chef d'atelier est parti, eh bien, j'ai pris sa fonction. Donc c'était agréable d'avoir progressé en 5-6 ans.
Oui.
Voilà.
Bah, tu as un talent pour réparer.
Oh. Non, je pense qu'il faut être passionné, volontaire et aussi travailleur. Et à l'époque, pas avoir peur de faire des heures parce que bon, maintenant, avec nos petites 35 heures, c'est presque de la rigolade le métier. Nous, quand les camions arrivaient, déjà le samedi, c'était notre plus grosse journée. On arrivait à faire 10-12 heures, même en tant qu'apprenti. À l'époque, il y avait toujours une tolérance là-dessus. On arrivait à récupérer un jour de congé de temps en temps, mais c'était pas... Parce que quand on travaillait donc que pour des professionnels, les chauffeurs y rentraient le vendredi après-midi ou le vendredi dans la nuit. Il fallait absolument que le dimanche soir, d'une façon ou d'une autre, ils repartent au travail. Donc, on se donnait tous, toute l'équipe, tout le monde travaillait à fond pour que les camions puissent repartir au boulot normalement. Par contre, quand je suis arrivé sur la région de Cré, n'ayant pas trouvé de boulot pour faire continuer la mécanique poids lourd, c'est là que je me suis mis un petit peu à l'automobile en pensant que ça allait être une passade de 6 mois, 1 an ou 2 ans. Et puis, je me suis cantonné là-dedans et j'y suis resté. Voilà d'où le changement est arrivé.
Et voilà comment, depuis ce mois d'octobre 1990, la passade s'est transformée en histoire au long cours qui se termine en cet été 2025. Cette histoire n'aurait pas pu exister sans Fabienne, Madame Durand, qui s'occupait de toute la partie administrative, un élément indispensable du garage, évidemment. Et quand vous vous êtes rencontrée avec Jean-Michel, est-ce que tu t'attendais à cette vie ?
Non, parce que j'étais une enfant. Ça fait 40 ans qu'on est ensemble. J'en ai 58. Donc j'avais 18 ans. Donc,
il était déjà dans la mécanique.
Oui. Ouais, Paul-Lourd. Donc non, on savait pas qu'on allait acheter un garage. Non.
Et comment t'es réagi quand ça s'est présenté d'acheter le garage ici ?
Ben la vie nous a poussé et on n'a pas réfléchi. On l'a fait. Voilà. On était jeunes. Donc on l'a fait parce que c'était comme ça et voilà quoi. Ça sera à refaire, je ne sais pas si on le referait, mais on l'a fait.
Et l'idée d'être vos propres patrons ?
Bah moi, je n'ai jamais eu de patron, en fait. Hein. Donc, j'étais à l'école quand j'ai rencontré Jean-Michel. Donc, mon patron, ça a toujours été mon mari. Donc, je ne connais rien d'autre.
Ça va te manquer ?
Les gens, oui. Le cambouis, non. Mais les gens, énormément.
Petit écureuil dans l'arbre, cueille des noisettes. Petit écureuil dans l'arbre, va dans sa cachette. Il y dépose ses noisettes, puis retourne à sa cueillette. Petit écureuil dans l'arbre, cueille des noisettes. Petit écureuil dans l'arbre, rentre dans sa cachette.
L'écureuil, c'est donc un des surnoms de Jean-Michel Durand. On peut aussi citer Barberousse, le Viking, ZZ Top, comme je vous le disais en début d'émission. Autant de petits noms qui signalent à celles et ceux qui ne le connaissent pas que Jean-Michel est roux, et oui, et qu'il arbore une belle barbe bien fournie. Et ce n'est pas sa seule particularité.
Ben, je ne me rendais pas compte qu'on avait un garage pas comme les autres garages. On a un garage qui était différent des autres. Mais bon, comme c'était un garage que j'organisais comme... Je le pensais, je faisais comme j'en avais l'intention et pas comme il aurait peut-être fallu faire pour être sur le même style que les autres garages. Mais bon, je préférais que ce soit mon garage qu'un garage commun.
Après, on a nos habitués, on a nos habitués du lundi, on a les habitués du mardi, on a les habitués du vendredi matin. Donc là, après, ça va leur manquer, les habitués du vendredi matin. Parce qu'ils passaient juste pour dire bonjour, boire le café, déjeuner.
Voilà, rester 5 minutes, boire un café et repartir. Tous les vendredis. Et donc, maintenant, ils m'ont dit, et vendredi prochain, on va faire comment ? Voilà, parce que c'était devenu un rituel. Ils arrivaient, allez, on va dire, 9h15, 9h30. On prenait 3 minutes pour boire un café, et même des fois debout sans s'asseoir, mais on échangeait 2-3 paroles, ils repartaient, on s'était vus et tout le monde était content. Voilà. Donc, on trouvera une autre formule après.
Parlons des apprentis, parce que ça fait quelques années que je viens ici, j'ai vu pas mal d'apprentis, j'ai vu la passion que tu avais pour leur apprendre le métier. Comment toi, tu l'as vécu, cette relation avec tes apprentis ?
Eh bien, déjà, je pense que j'ai un petit peu reproduit ce que mon patron a fait, mon premier patron a fait envers moi. J'ai eu la chance de travailler principalement qu'avec lui, c'était quelqu'un de très doué. Et de suite, je ne suis pas passé par la case que vidange, plaquette de frein, pneus. De suite, comme je travaillais avec lui, c'était lui qui faisait toute la mécanique fine, les boîtes à vitesse, les moteurs, les choses comme ça. C'est ce qui fait que de suite, j'étais le manœuvre pour faire des moteurs, pour faire des boîtes à vitesse. C'est ce qui a permis que j'ai appris, je suis rentré très vite dans le métier. Donc, quand j'ai eu mon propre garage, que j'ai vu arriver des jeunes qui étaient motivés, la première des choses que j'ai voulu faire, c'est pas les faire balayer, mais surtout les mettre directement dans le vif du sujet et les mettre vraiment dans la mécanique pour qu'ils apprennent à travailler et à savoir réparer une voiture. Voilà, pas changer des pièces. Parce que changer des pneus, c'est pour moi, ça fait partie de la mécanique, mais ce n'est pas être mécanicien.
Et comment ça s'est passé ?
Eh bien, de ce côté-là, je suis assez content parce que donc, j'ai eu beaucoup de jeunes qui ont maintenant de très bonnes places dans des grands garages. Donc, c'est que j'ai dû leur apprendre correctement le métier. Après, en plus de ça, très, très vite, je suis devenu examinateur au CAP, au BEP, au bac pro. Donc, j'ai été souvent avec les profs du CFA de Livron. C'est ce qui m'a permis de voir un petit peu ce qu'ils demandaient aux élèves et de leur apprendre correctement le métier. Donc voilà, c'était aussi une partie qui me plaisait énormément de faire partie des jurys, d'être examinateur, pour voir un petit peu ce qu'on demandait aux élèves apprentis et les niveaux que certains arrivaient à avoir. Et justement, c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait vraiment de grosses, grosses différences suivant quel était le jeune et où il avait appris son métier. Voilà. Et donc, en passant par l'apprentissage, je pense que dans notre métier de la mécanique, c'est vraiment ce qui est le plus approprié pour apprendre le métier.
Tu dirais qu'il y a combien de jeunes qui ont été formés ici dans votre garage ?
Ouais, je pense que j'ai dû former à peu près une vingtaine de jeunes. Les très très mauvais, le premier mois, je leur disais qu'il fallait qu'ils essayent un autre métier. J'ai eu des gars qui étaient moyens, qui étaient corrects. Et j'ai fait 6-7 élites qui sont actuellement premiers mécanos dans des garages ou patrons ou responsables d'atelier. Ou même qui ont un centre de contrôle technique. Voilà, donc bon, je suis content pour ces jeunes-là. Ça veut dire que mon savoir, il est passé. Voilà, donc maintenant, je peux arrêter, partir à la retraite. Je leur laisse plein pouvoir.
J'étais de passage au garage SOS Auto à Cray et je tombe par hasard sur un mécanicien qui a été un ancien apprenti de Jean-Michel Durand. Voici donc le témoignage de Vincent Arnaud qui a démarré à 15 ans et demi comme apprenti et a travaillé pendant 13 ans au garage Durand.
J'ai fait 5 années d'apprentissage et puis tout le reste en tant qu'ouvrier. Ouais. Voilà, c'est là-bas que j'ai appris le métier en fait.
Et comment ça s'est passé ?
C'était un peu difficile au début parce que c'est quand même pas un métier facile. Mais globalement, je pense que j'ai bien appris le travail et je suis content d'être allé travailler là-bas.
Qu'est-ce que tu dirais sur Monsieur Durand ?
Monsieur Durand, je pense que c'est quelqu'un qui connaît bien son travail. Je pourrais dire qu'il est très honnête, très juste dans son travail. Et puis, il sait juger le travail par rapport au client, à la voiture. C'est toute une analyse chaque fois et il sait très bien faire les choses.
Et pour l'aspect transmission, toi, en tant qu'apprenti ?
Transmission en tant que transmettre le travail ? Comment je l'ai perçu, quoi ?
Ouais.
Oui, ça s'est bien passé, il m'a appris beaucoup de choses et qu'aujourd'hui je mets toujours en application et que je transmets également à des plus jeunes que moi, quoi. Voilà. Et c'est important de transmettre ce qu'on a appris, voilà, parce que les jeunes qui arrivent, c'est ceux qui vont nous remplacer plus tard, du coup c'est pour ça que c'est très important, quoi.
Tes apprentis élites que tu as eus, est-ce que tu es toujours en contact avec eux ?
Oui, bien sûr, j'en ai encore vu un ce matin. Donc, c'est toujours plaisir de les rencontrer. Et surtout, comme je connais leur niveau et qu'ils connaissent le mien, quand on discute, on se raconte les dernières histoires qui nous sont arrivées avec des cas bien particuliers pour que si un jour on se trouve face au même problème, on ait déjà entendu parler du problème, de la solution. Donc, souvent, on fait de l'échange de savoir avec mes anciens apprentis. Et des fois, je les appelle pour voir s'ils ont déjà vu les symptômes sur telle ou telle voiture. Ou l'inverse, eux, ils m'appellent pour me dire, tiens, comment on faisait quand on avait tel symptôme sur tel style de voiture. Donc, voilà, c'est des échanges de bons procédés. C'est ce qui nous fait avancer. Hein.
Oui, oui, oui.
La connaissance, elle vient comme ça. Hein. Quand on a découvert quelque chose et qu'on a mis 15 jours pour le découvrir... c'est d'office, on l'a mémorisé et on l'oublie jamais. Voilà. Alors que si vous avez quelqu'un en permanence qui vous dit change telle pièce sans savoir pourquoi ni comment, jamais on se rappellera d'après les symptômes qu'est-ce qu'il faut changer comme pièce pour avoir le résultat. C'est la mécanique pète différemment.
il faut comprendre par soi-même.
Voilà, il faut. C'est beaucoup un jeu de déduction, la mécanique. Hein. On a un problème, on a éventuellement des solutions, on les essaye, et puis jusqu'à trouver la bonne solution. Et quand on a trouvé la bonne solution, quand on a bien bataillé, qu'on n'a pas dormi de deux nuits, on l'oubliera jamais.
Et on est content de le partager avec les collègues.
Voilà, on est content de le partager avec les vrais collègues.
Oui.
Après, les concurrents, eh ben non, chacun se débrouille avec sa malchance. Mais avec les vrais collègues, ouais, on est content. Et puis bon, ça fait plaisir de parler vrai métier. Voilà.
Je repose une question sur la suite du garage. Il y avait l'espoir que ça reste un garage ou il y avait cet espoir-là ?
Non, malheureusement, le garage a été vendu, mais pour un bail tout commerce, parce que c'est un garage avec du matériel qui avait en partie à peu près 35 ans et d'autres même plus. Et en 35 ans, les normes ont tellement changé que les organismes de contrôle ne sont pas d'accord que des jeunes s'installent avec du matériel assez usagé comme on avait nous et qui n'était plus dans les nouvelles normes. Donc maintenant, des jeunes qui vont vouloir s'installer, ça sera très très dur parce que ce qu'ils leur demandent comme norme, ça sera impossible à financer. Donc le garage, il s'est arrêté comme ça parce que la loi ne nous permet plus de vendre un fonds de commerce de garage comme nous, un petit garage.
Mais il me semblait que ton dernier apprenti avait envie de le reprendre.
Oui, ils avaient envie, ils avaient l'intention, ils ont même fait des démarches pour essayer de reprendre. Mais quand ils ont contacté les organismes et qu'ils leur ont dit, voilà, il faut des attestations pour la pave, pour l'électricité, la conformité des ponts, les cahiers des charges des outils avec les protections de la norme actuelle. Donc, ben, il aurait fallu tout changer le matériel, tout repartir avec du matériel neuf. Le prix d'un petit garage comme nous ne permet pas d'équiper un garage neuf actuel. Donc maintenant, qui c'est qui va pouvoir ouvrir des garages ? Eh bien, ce seront des grands groupes qui, eux, auront des finances à mettre dedans. Ils attaqueront avec des bâtiments conçus spécialement pour être des garages. Ils auront le matériel avec les normes 2025. Et ça, c'est pour ça que dans ces garages-là, le prix de revient de l'heure est nettement supérieur à nos petits garages de campagne.
C'est-à-dire dans les combien, aujourd'hui, en 2025 ?
Et nous, en 2025, on était environ à 65 euros de l'heure. Dans les grands garages actuels sur Valence, c'est plutôt 120. Donc, le soir, c'est pas la même facture qu'on paye entre 65 euros de l'heure pendant 8 heures ou 120 euros de l'heure pendant 8 heures. Et après, ben, il faut pas qu'on se plaigne, qu'on voie des familles qui n'arrivent pas à nourrir correctement leurs enfants parce qu'ils se font massacrer par des grands garages qui, eux, ont des super normes à respecter. Voilà, donc les normes, des fois, ben, c'est encore les pauvres gens qui vont les subir.
Et question pratique, tu sais ce que ça va être ici ?
Alors, les personnes qui ont racheté, c'est des personnes qui ont déjà le local à côté de chez nous et qui veulent s'agrandir. Donc, ils profitent de mon départ pour me racheter le fonds pour pouvoir agrandir, eux, leur entreprise. Donc, ça sera un bureau d'études.
C'est-à-dire architecture ?
C'est un bureau d'études, c'est ils font des calculs pour des portées de charpentes métalliques ou des charpentes bois, des plans de grosses usines, des plans de grosses structures, tous les bâtiments pour bien calculer les portées, pour que ça soit solide, pour pas que ça tombe quand il y a la neige et des choses comme ça.
Oui, oui, oui.
Uniquement, c'est pas de la fabrication, c'est uniquement de la conception sur plan.
Donc tout ça va disparaître et la fosse, tout ça va devenir des bureaux.
Ah oui, ça sera rien que des bureaux, des salles de réception. Voilà, donc on va tout boucher les postes pour que le sol soit plat et ils vont installer donc leur salle de réception et tous leurs bureaux dans le rez-de-chaussée.
D'accord.
Stop. que je fais, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ou je continue? J'ai 15 ans où j'en suis? À la fin ou au début? Stop, stop, oh, encore.
Après, le choix d'avoir arrêté cette année plutôt que dans 2 ou 3 ans, je ne peux pas savoir pour le moment, je n'ai pas de recul pour savoir si j'ai bien fait d'arrêter tout de suite. Parce que bon, malheureusement, dans la vie, il y a le travail, mais il y a aussi la santé. Et on ne sait jamais, la santé, combien de temps elle va être encore correcte. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de passer un petit peu du temps plaisir, autre que la mécanique.
Et par exemple, à quoi?
Eh bien, j'ai plusieurs passions. Je vais à la chasse, je vais à la pêche, je fais du vélo. Je suis grand-père depuis 14 mois, donc je vais avoir plein de choses à faire. Après, j'ai un petit peu la passion du camping-car, donc on va faire aussi des promenades de camping-car, visiter toute la France, chose qu'on n'a jamais pu faire maintenant. Parce que bon, quand on est à son compte et qu'on est une petite entreprise, on ne peut pas vraiment prendre 5-6 semaines de congés payés par an. Donc, c'était chaque fois des longs week-ends. Donc maintenant, on va goûter aux vacances de plusieurs mois. Donc, on verra après, par la suite, si la mécanique nous manque, si la clientèle nous manque, si le rapport aux gens nous manque. Ça, personne, je n'ai pas de recul pour dire comment ça va se passer. Pour la saison prochaine, ben, je vais déjà me remettre au vélo, parce que bon, il faudra quand même que je continue à être un petit peu dans l'effort physique. Après, je vais continuer à faire à la pêche. Je vais même peut-être essayer de faire une petite école de pêche pour apprendre aux jeunes à pêcher, parce que bon, apprendre aux autres, c'est quelque chose qui me passionne. Et puis bon, vu que j'ai mes 12 chiens chez moi, je vais continuer à les emmener dans les bois et chasser le sanglier comme je le fais depuis quelques années. La différence qu'il y aura, c'est que le soir, quand je rentrerai fatigué d'avoir couru toute la journée dans les bois, le lendemain, je n'aurai pas besoin de me lever à la première heure pour aller dépanner les voitures. Voilà, ça sera un peu plus relax.
Petit écureuil dans l'arbre a plein de noisettes. Il est très content car il pourra faire la fête. Inviter tous ses amis pour faire une noisette partie. Petit écureuil dans l'arbre range ses noisettes. Petit écureuil est prêt pour faire la fête.
Et alors, ce tour de France en camping-car?
Alors ça, c'est quelque chose que je rêvais depuis très longtemps. Donc, je me suis acheté, il y a 2 ans, un camping-car, bon, qui n'a toujours pas roulé.
De quelle marque? Parce qu'on m'a dit que tu étais spécialiste Volkswagen.
Alors, je suis passionné Volkswagen, mais malheureusement, je suis un petit peu grand, à 1m80. Les Volkswagen ne sont pas très très hauts, donc j'ai dû me rabattre sur un Ducato, qui est vraiment plus confort pour moi. Donc, c'est pour ça que je vais faire le Tour de France avec un Ducato. Donc, j'avais toujours prévu de faire ça parce que j'ai envie de découvrir aussi. Donc, passionné de pêche depuis largement 50 ans. Ce que je veux, c'est arriver dans une région, m'y installer pour quelques jours ou une quinzaine de jours, côtoyer les gens de la région, voir ce qu'ils ont à me donner comme astuce pour pêcher les poissons qui sont dans leur région. Par quelle astuce? Et après, une fois que j'aurai compris comment on pêche tel poisson dans telle région, eh bien, j'ai l'intention de me déplacer pour aller découvrir une autre région et pouvoir apprendre à pêcher autre chose dans une autre région avec d'autres techniques.
Toi, qu'est-ce que tu as le plus appris finalement, là, si tu regardes ces décennies passées?
Je ne sais pas trop. Moi, je n'ai jamais changer de façon de vivre depuis que je suis né, depuis que j'ai commencé à grandir. Dès que je suis sorti de l'école, j'ai pris un cap et je n'ai pas vraiment dévié. Voilà, je voulais travailler, gagner ma vie, mais je voulais aussi rendre service aux gens et puis des fois dépanner un petit peu des gens qui le méritent et qui n'ont pas la chance d'avoir suffisamment des moyens pour vivre correctement. Donc, je ne fais pas des dons à droite, à gauche pour la lutte contre ci, contre ça. Par contre, quand une famille venait chez moi et avait un peu des soucis avec leur voiture, eh bien, j'essayais de toujours trouver la petite pièce qui coûtait pas cher, la pièce d'occasion, et éventuellement faire cadeau d'une paire d'heures sur la facture pour qu'ils puissent vivre un peu mieux.
Et voilà, c'est la fin de cette histoire pas comme les autres, celle de Jean-Michel et Fabienne Durand, qui ont tenu le garage Durand à Oust-sur-Scie pendant 35 ans, jusqu'en juin 2025. Je les remercie pour leur temps et leur souhaite une belle retraite bien bien méritée. Merci également à Vincent Arnaud, mécanicien chez SOS Auto à Cray, ainsi qu'au garage Valpneu, toujours à Cray, pour les sons d'ambiance atelier. Tous les crédits musique sont à retrouver sur la page de l'émission La Collective, à l'adresse radiosynfé.com. Je suis Nora Benz, j'ai conçu et fabriqué cette histoire pas comme les autres. Et avant de vous quitter, voici l'histoire derrière l'histoire. J'étais une simple cliente du garage Durand. Au fil des années et des conversations avec celui que j'appelais le Viking, je m'étais dit qu'un jour, il faudrait l'enregistrer. Et ce jour de juin 2025, je passe devant le garage, j'entre saluer les Durand et je vois qu'ils sont en train de vider l'atelier. Oh là là, ça s'accélère. Donc, j'ai filé chercher mon enregistreur et voilà le résultat que vous venez d'écouter. Je vous dis un grand merci pour votre écoute et à une prochaine histoire, pas comme les autres, un jour prochain.